finir la beauté la semaine.
On
la beauté
de la semaine. Cette beauté.
Juste pour finir, quoi, autrement dit, voici les Lacanoux.
Mais bonjour.
Morgane Daniel, Alexis Rossignol, Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bassureau, Daniel Morin.
Bonjour, regarde, c'est mon.
Et nos invités, salut, Sophie Guillemin et Thierry Gonard.
Ah, bravo.
Présenter un film qui sortira la semaine prochaine au cinéma le 12 janvier, ça s'appelle Sans toi, toi Théoï, un film réalisé par Sophie Guillemin qu'elle a également coproduit, dans lequel elle joue avec Thierry Godard, donc on imagine toute la part peut-être autobiographique, que sais-je, on va voir avec eux, mais en tout cas très personnel qu'ils ont pu mettre dans ce film. Jouons en attendant avec
Tanguy Morgan au téléphone.
Et le titre, hein, j'ai pas quoi.
T'es avec toi.
Ah, quand même.
Je sais pas.
On est d'accord en régie ou pas sur Leïla?
Ouais.
Leïla.
Bien sûr qu'on est d'accord en régie.
Ah non, mais je te demande, écoute, moi je veux pas. Oh là là, moi j'ai pas de problème. Hein. Qui chante ça?
Ah ouais.
Tanguy.
Oui.
Et Limé des Roches.
Joli.
Oh yes.
Et tu as un ton.
Moi?
Ah, c'est le ton de Tanguy. C'est le ton de Tanguy.
Pardon.
C'est le ton de Tanguy avec. Tu vas pas donner la parole à quelqu'un.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi, je suis un peu trop dominateur.
C'est ce qui m'excite.
Oui, oui, je sais, je sais. Enfin, cette relation d'école.
Qui chante ça?
Tom.
Grégoire.
Joli.
Pas le mot que j'aurais employé.
Ah,
Grégoire. Bravo,
là.
Une note de piano, et
hop.
Eh ben oui. Quand on est lui et Cléderman.
Juste là-dessus.
Grégoire.
Ouais, mais quelle note?
Toi plus moi, Grégoire, qui chante ça?
Tom, oui. Marc Lavoine, toi mon amour.
Wow.
Tom, en fait, t'es incroyable en chanson française.
Ouais.
Faut le dire.
Bah, Tom, le reste.
Tom, moi, je trouve que t'es incroyable tout court.
Autant Tanguy est resté scotché rock années 70, ouais. 80, ouais. Californie. Autant toi, t'es
moi, chérie FM.
Top voilà. 50.
Ouais, Alexis,
oui.
Trio.
Oui.
Toi et moi.
Toi et moi, dans tout ça.
Alors toi, t'es assez scotché militant. Hein.
C'est la ZAD. Allez. La fête de l'humain.
C'est
le pan de chance à Croubelle.
C'est fou. C'est fou comme sur
Tiffany Merguez.
L'hygiène.
Sur les goûts musicaux, chacun son
c'est
profil.
Marrant, hein.
C'est.
Ouais, du moins, Sardou ou pas.
Qui chante? Alors, faites pas les malins.
Ah,
Morgane, le grand.
Oui,
Guillaume Grand. Guillaume Grand.
Ah, donc c'est pas lui en fait. Bah non, parce que moi j'avais les interrupteurs.
Mais c'est la même. C'est la même que toi.
Non.
Rien non, c'est pas la même. D'un côté, t'as toi et moi, de l'autre, t'as toi plus moi.
Ah, oh là là.
Plus tous ceux qui le
veulent. C'est ça la chanson.
Là, t'as.
Ouais.
Ah ouais.
C'est Grégoire, toi plus moi. Et t'as Guillaume Grand.
On pourrait faire un duo, ça collerait.
Alors je signale que le titre de trio, c'est également toi et moi.
Ah, c'est vrai.
Tu vois. Donc il y a forcément toi dans le titre. Et c'est le super banco.
C'est là?
Oui.
Leïla?
Daniel?
Oui. Jean Ferré?
Oh. Non.
Non, Jean Ferrat.
J'ai dit Jean.
Ah bah oui.
C'est moi, pas
j'ai,
Léon.
Moi j'ai dit Ferrat. J'ai dit Ferrat.
Le grand, donc vraiment on peut l'accepter.
Bon,
hein, on
est plus, non, non, il y a plusieurs,
non,
y a plusieurs
Jean,
mais il n'y a qu'un Ferrat.
Je l'ai reconnu.
Jean Ferrat. Oui, toi Tom t'as dit le Saint-Jean Cap Ferrat, c'est ça aussi. Donc je.
J'ai dit Mandel de la Napoule.
En régie, qui a le point?
Bah Jean.
Et c'est Leïla qui remporte ce blind test. Avec Jean. Merci d'accueillir Sophie Guillemin et Thierry Gonard.
France Inter.
Bonjour.
Bande originale.
Bonjour.
Bienvenue.
Avec Nagui.
Et c'est vrai que j'avais envie de terminer ce blind test avec cette chanson de Jean Ferrat. Où serais-je sans toi? Parce que le film s'appelle Sans toi et c'est vraiment ça, c'est Que serais-je sans toi? Alors je sais pas si cette chanson avait été évoquée comme possiblement dans la bande originale. J'ai dit tout à l'heure Sophie Guillemin, bonjour et merci d'être à ce micro.
Bonjour et merci de me recevoir.
Avec plaisir, bienvenue Thierry Godard, mais lui il est chez lui quoi. Je crois qu'il a les clés, hein. T'as les clés du camion, il a la carte.
Son petit rond de serviette.
Il a tout. Ouais, non, il fait la bise au vigile quand il rentre ici, il fait salut, c'est moi.
Très sympa d'ailleurs.
Ils s'embrassent bien. Hein.
Daniel.
Pardon. Film que vous avez écrit ensemble, en tout cas que vous avez écrit seul, puis les dialogues tous les deux, film que vous réalisez, film que vous produisez, dans lequel vous jouez. On est dans le film extrêmement personnel, et puis c'est une histoire d'amour incroyable, justement, entre Thierry et vous, ce qui est le cas à la ville comme à la scène. Sophie.
Absolument.
Tout est c'est parti de quoi, d'un fait réel entre guillemets, ou c'est un message que vous vouliez passer, un message d'amour que vous vouliez passer à Thierry?
Non, parce que le personnage d'Antoine dans le film correspond pas du tout à la personnalité de Thierry. Il est un peu plus revêche, en tout cas au départ, quoi. C'est quand même un homme qui est assez autoritaire, qui n'hésite pas à larguer sa nana dès qu'il va en retrouver une autre. Donc
Moi je l'ai pas vécu comme
Vous l'avez pas vu comme ça?
Non, enfin je l'ai pas vu comme il largue sa nana pour en trouver une autre. Je l'ai vécu comme il a une l'unique
évidemment.
Histoire d'amour.
Bien sûr.
Celle qui nous marque à vie.
Il s'en remet pas.
C'est ça, et en se posant la question de savoir d'abord est-ce qu'on peut aimer plusieurs fois ou est-ce qu'on a qu'un amour dans la vie.
Mais quoi qu'il en soit, même s'il a le droit d'aimer à nouveau après ce grand amour, il la largue quand même de manière un peu
Surtout un jour d'anniversaire. La peau va se rendre seule avec son gâteau.
Mais au moins, c'est clair.
On lui recommande de congeler le gâteau, ce qui est quand même une goujaterie absolue. Je comprends pas pourquoi lui a pas mis dans la tête.
On évite le gâchis.
Il y avait une prise où elle me mettait dans la tête, mais on l'a pas monté.
En tout cas, ce film est, que vous avez réalisé, la manière dont vous le réalisez, relève plus du road movie, du documentaire que de la fiction. On a le sentiment d'être dans une intimité extrêmement proche et dans des moments de contemplation d'abord de paysage, de contemplation, parce que c'est vous qui avez la caméra de Thierry Godard, parce qu'il est filmé, c'est moins qu'on puisse dire, sous toutes les coutures, et on sent que vous, que l'œil, lui, déjà aime la caméra, mais la caméra l'aime aussi, oui. notamment la vôtre.
Ah, je confirme, ça, il n'y a rien à faire, hein. Vous mettez l'objectif en face de lui, et puis la magie surgit.
Vous remarquez, vous, c'est carrément pas le même homme?
À l'image, vous voulez dire?
Non, mais vous dites, vous mettez un objectif devant lui et il se transforme.
Parce que effectivement, même dans la vie, il a ce charisme assez dingue. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on va faire le marché le dimanche matin, c'est le maire de la ville. Hein. C'est.
Il est en campagne, il serre les mains de tout le monde.
Thierry va parler.
Et vous habitez à Levallois-Perret en plus. Je trouve ça assez formidable.
Je suis juste très pote avec le poissonnier que j'adore. Voilà, tu sais, quelques commerçants, normal. Enfin.
Non, mais c'est bien d'être pote avec ces commerçants.
Voilà, c'est
évidemment,
ça.
Évidemment. Ouais. Vous avez découvert le film de Sophie dans le work in progress, puisque vous avez commencé à écrire, à co-signer ensemble les dialogues. Elle vous a parlé de l'idée, du point de départ. Comment, quand on est un couple, encore une fois, on se met à travailler ensemble et on découvre une idée qui parle d'une histoire d'amour d'un couple. Et comment on arrive à cloisonner tout ça?
Chérie, tu veux?
Non, Thierry, faut y aller.
Non, alors on a fait un premier voyage à Saint-Pétersbourg où on a adoré être en Russie. Connaissait pas ni Sophie ni moi.
Et ça, c'était un voyage d'amoureux.
Voilà, okay. Saint-Valentin, Saint-Pétersbourg. On s'est dit voilà,
super ville,
sympa. Ouais, c'est très très beau.
Classe.
Et puis on a été fasciné par cette ville, les Russes, l'ambiance.
Vous avez cherché une ville avec un saint, c'est un Saint-Valentin. Vous avez évité quoi?
Il y avait Saint
Tropez.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Saint-Malo.
Tropez.
Saint-Amand-les-Eaux aussi.
Saint-Amand-les-Eaux, pas mal.
Oui, Nagui, une remarque.
et on y retournait et Sophie avait super envie de tourner, Trépignait. Et je lui dis, prends ton 5D et on a commencé à. Moi, j'ai écrit des dialogues très nazes au début sur deux êtres qui s'aiment et qui en fait se répètent tout le temps la même chose. Je t'aime, tu m'aimes comment? Je t'aime à la folie, oui, mais à la folie comment? Enfin, tu vois un truc.
Et mes fesses. Tu
voilà, et mes fesses, et mon cul. Mais voilà.
Puis finalement, vous avez gardé ces dialogues. Quoi.
Et finalement, voilà, on les a gardés. Et voilà, et tout ça est parti à la poubelle. Et Sophie, après, est partie, elle, dans l'histoire. Elle s'est mise à me filmer à Saint-Pétersbourg, en train de marcher, voilà. Et puis, petit à petit, elle a été inspirée de plus en plus. Et l'objet s'est construit de cette façon.
Et on a l'impression que le regard que vous portez sur... alors maintenant, on va sortir de votre vie privée pour rentrer dans la fiction, parce que ça reste quand même une fiction, ou peut-être un regard sur les hommes en général. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il est comment dirais-je, sûr de lui, en tout cas, fort, cet homme, au début, et plus on avance dans son histoire d'amour, plus il en devient faible, plus il en devient fragile, touchant, et on le croit, justement, machine à drague, ou alors, justement, j'ai une femme, mais je la plaque, je vais en retrouver une autre, et puis dans son enquête, on comprend qu'il en a eu plusieurs, d'ailleurs, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qu'il a eu plusieurs maîtresses, et ainsi de suite, donc c'est vraiment le mal dominant. Le peut-être même un prédateur,
le mal alpha,
c'est
Poutine.
Ça exactement. Et en fait il devient de plus en plus faible, fragile
et vulnérable.
Ouais.
Peut-être pas faible en tout cas, parce que c'est aussi
il est pas
une grande...
Il y a un moment où il est pas en forme.
Il y a un moment où il titube.
Moi, je vous recommande de voir le film, hein, Sophie. Hein, il est pas en forme.
En tout cas, psychologiquement, pour moi, il devient pas faible. C'est presque l'inverse, parce que pour moi, c'est une grande force que d'arriver à être lucide face à soi-même et à reconnaître
son
ses
amour.
Défauts. Et oui, et puis c'est justement sa sensibilité, surtout pour un homme. Et effectivement, c'est exactement ça, cette trajectoire, parce que c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'adore ce type de personnage, un peu comme dans La Grande Bellezza ou comme dans le livre Carou de Steve Tezich, où c'est des personnages en fait qui débutent l'histoire, ils sont totalement désillusionnés sur la vie, totalement cyniques, ils regardent tout le monde un peu de haut, machin et tout, et en fait la vie leur font vivre soit des épreuves, soit voilà des expériences qui font que ils retrouvent un peu leur âme d'enfant. Et en tout cas, ils se reconnectent à une part d'eux-mêmes qui est totalement émotive et sensible. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, comme trajectoire, parce que c'est pas donné à tout le monde que de se remettre en question, je trouve. Il y a des gens qui se remettent jamais en question.
Et alors moi, je l'ai ressenti comme étant, on n'a dans notre vie qu'une seule et belle et forte histoire d'amour. Mais apparemment, c'était pas le message que vous vouliez faire passer.
Non, parce que ça, je crois pas du tout à ça fondamentalement, quoi. Je pense qu'on a plein, on peut
pourtant,
avoir
lui,
plein d'histoires d'amour.
Dans le film, il fout en l'air sa vie pour une histoire d'amour qu'il pense être unique, sur une respiration.
D'ailleurs, peut-être qu'il se trompe, c'est ça l'idée du film, en fait, c'est que ça se trouve, il se trompe, en fait. Ça se trouve, parce que c'est pour
il
ça, d'ailleurs...
Il a fantasmé, sublimé cet amour.
Et c'est pour ça qu'il y a une grosse part aussi onirique et que les flashbacks arrivent et puis disparaissent, s'estompent, et que justement, même l'image même de Solange, donc sa bien-aimée, devient de moins en moins présente à l'image. C'est parce qu'en fait, c'est pas forcément un truc réel. Ça peut être justement une sorte de fantasme je sais pas comment dire, mais.
De fantasme, c'était pas mal, chérie.
Fantasme, c'était bien. Je regarde les fantasmes.
Par l'intonation, on était une bonne fin de phrase, quoi.
Jusqu'au. Sophie. Oh,
je la refais.
C'est vrai qu'on fait les dialogues.
Jusqu'au bout du film, en fait, ce personnage que vous incarnez, Thierry, il est quand même louche dans son rapport amoureux. Il y a un vrai problème de sincérité dans les relations qu'il entretient. C'est pour ça que moi aussi, j'ai vraiment eu la sensation que c'est un film sur l'amour qui n'est plus là. Après, qu'est-ce qui se passe après le départ de l'amour, en fait? Il peut essayer de se reconstruire, mais on a l'impression qu'on a toujours affaire à un homme blessé.
Oui, en perdition, en plus.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parce qu'il y a peut-être une part d'orgueil en lui d'être passé à côté de quelque chose. Il y a aussi, c'est plus complexe, tu as raison. Et voilà, jusqu'à la fin, on sent que cette pauvre femme avec qui il est dans la scène de fin, on dit mais qu'est-ce qu'il va faire ? La pauvre, la pauvre.
Ouais. Là, c'est... On aimerait savoir ce qu'il a écrit sur sa petite lanterne, là, s'envole vers le ciel, et on se doute bien que c'est pour Solange.
Bah ouais.
Cette fameuse lanterne, je crois que c'est une tradition en Asie, c'est ça, quand on fait des vœux, on brûle.
On
met un message.
On met
un message, c'est dans tes rêves, ça. On met un message dans une lampe de papier, entre guillemets, qu'on envoie dans le ciel, c'est ça.
Il y a une flamme en dessous qui est le feu de Bengale,
ça s'appelle.
C'est ça.
C'est
un nom?
C'est les feux de Bengale,
non?
C'est des lampions. C'est des lampions que t'allumes et puis ça se gonfle et puis ça s'en va dans le ciel.
Oui, c'est un peu le principe de la montgolfière, mais un nouveau papier joué, sauf qu'il y a toujours ce message, ce vœu, entre guillemets.
On écrit des vœux tout le temps dessus, c'est ça.
Ça s'appelle Sans toi, le premier long métrage en tant que réalisatrice de Sophie Guimain, qui sortira ce 12 janvier avec Thierry Godard, avec Julia Faure, Catherine Wilkening, Laura Presgurvic, Mélanie Maudran, Bruno Solo, avec sa douce et tendre Véronique, qui est absolument solaire et de justesse et de naturel également dans ce film, le 12 janvier au cinéma. Mais d'abord, voici Morgane Cadignan qui ne vous aide pas. Elle ne vous aime pas. Mais pourquoi tant de méchanceté,
Thierry? Je vous aime pas parce que je l'ai vu le film. Oui, c'est très bien, mais ça m'a encore agacé parce que c'est qu'un film. Un homme qui plaque tout parce qu'il croit avoir entendu la respiration d'une femme qu'il a aimée au téléphone. Non, mais à quelle heure en fait? Bon, il plaque tout, y compris sa meuf actuelle. Donc là, c'est bien. Merci Sophie, on est déjà un peu plus dans le réalisme. Mais pour une respiration. Mais pardon, mais pour une respiration, Thierry Godard. Mais non, moi je laisse des notes vocales à des gars qui disent distinctement je t'aime, je t'attends, voici les codes de l'immeuble. Et ça ne monte même pas dans le tramway. Donc, excusez-moi, soyons réalistes, quoi. Là, votre personnage, il va en Russie. Mais pardon, mais pourquoi personne vient jamais me chercher à l'autre bout du monde? Vous comprenez pas que si je pars souvent, c'est juste pour qu'on me court après, en fait? Putain, les gars comprennent pas. Après, ça te sort de bonnes vacances, meuf. Mais putain, t'es pas censé me laisser monter dans l'avion, mec. J'ai pas envie de voyager, j'ai l'empreinte carbone de Jeff Bezos, mais juste parce que je veux Bezos, quoi.
Non,
franchement. Non. Si, mais pardon, il y a des espaces.
C'est bien.
Si.
Si, je vous confirme. Non, mais ce qu'il faut, il y a des espaces dans les aéroports et dans les gares construits juste pour que les gens se courent après, s'embrouillent et se rendent compte qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Réveillez-vous, vous pensez qu'on a besoin de quais aussi larges? Qui a besoin de 3 Starbucks à Orly? C'est ridicule, c'est juste pour faire une demande en mariage mignonne, comme dans les films. Et oh, on se rend compte qu'on n'a pas prévu de bague, du coup tu me passes un donut sur le doigt en attendant. Putain, non, mais c'est pourtant pas compliqué, non. Quoi. Maintenant, on passe à la biographie. Sophie, beaucoup de points communs entre nous. À commencer par une date de naissance, un 1er décembre. Bon, en vrai, je suis née le 2. Mais sinon, la chronique ne tenait pas, et avouez que c'est dommage. Vous décrochez votre premier rôle dans L'ennui de Cédric Kahn. Et tout pareil, moi, ça fait 2 ans que j'ai décroché mon premier rôle ici, et depuis, je canne d'ennui. Et... littéraire. Et donc, voilà, fin de la liste des points communs qui n'en sont pas, mais comme disait Lao Tzu, un paragraphe, c'est un paragraphe. Ah bah voilà, tout le monde est en boucle sur le taoïsme, mais il a longtemps été payé au caractère, là, au-dessus, quand il écrivait pour Alexis. On le sait pas, mais l'histoire du jambon macédoine, ça vient directement de Chine. Sophie, vous réalisez Sans toi et vous jouez dedans parce que vous êtes talentueuse et qu'on n'est jamais aussi bien servi que par Sophie Guillemin. Alors oui, plus rien à foutre. Hein. 2022, j'invente mes proverbes aussi, c'est nouveau parce que ça va bien. Vous savez, moi, le nombre de fois où j'ai volé un œuf sans voler un bœuf derrière, voilà, les gens mentent, ça me fout en l'air. Vous êtes un couple à l'écran, mais également dans la vie, on l'a déjà dit, Thierry vient vous chercher en Russie, dans les films et dans la vie, vient sûrement vous chercher à l'aéroport, donc ça valait bien un premier rôle, franchement, c'est le minimum parce que qui de mieux pour bien vous mettre en valeur à l'image que la personne que vous aimez le plus au monde? Voilà, allez, je vais faire un selfie.
Merci. Cavignon.
Ce soir et demain, tu seras à Bordeaux à la nouvelle comédie Galliane.
Tout à fait.
Et pour l'avoir vu sur scène, allez-y, c'est excellent, extrêmement drôle.
Ah ben on est à Bordeaux.
Et touchant, c'est vrai. Bah allez-y.
C'est quand?
Je peux vous avoir
des
exos. Ah ouais, il y a pas de problème. Je connais l'artiste.
Je connais la bête.
Est-ce que vous préfériez, Sophie, que l'on parle de votre film en disant qu'il s'agit plus de non pas de la plus belle histoire d'amour, mais de l'amour impossible finalement, l'inverse?
Quoi?
Alors j'en ai fait des plus longues et des plus dures, hein, de questions.
C'est un gros titre. C'est une saga.
Hein.
Ouais. Est-ce que c'est sur
l'amour impossible?
Non, est-ce que c'est un film pour vous qui est sur la plus belle histoire d'amour après laquelle il court, ou l'amour est impossible finalement? Cet amour,
jamais impossible. Ça, je pourrais jamais dire ça. Mais oui, effectivement, c'est sur la plus belle histoire d'amour qu'il a ressentie. Et encore une fois, est-ce que c'est la réalité ou pas? Ça, chacun est libre.
Est-ce qu'elle est fantasmée ou pas? Est-ce que c'est un délire dans sa tête ou
c'est-à-dire
non?
C'est-à-dire que ça se trouve, il passe à côté des histoires de la première et de la dernière fille avec laquelle il est, qui était, ça se trouve, aussi valable que celle de Solange. Mais sauf que, voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que des fois, on se fait, enfin comment dire, déjà la mémoire elle tronque un peu tout, je trouve. On peut se souvenir que des bons moments avec une personne, alors que ça se trouve il a totalement oublié qu'il y a eu aussi plein de disputes, plein de choses qui allaient pas. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de surfer sur les ambivalences, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Totalement.
C'est-à-dire que c'est sa vision, c'est son point de vue dans l'histoire. Mais ça reste son point de vue.
Et même nous, on se fait balader, ne sachant pas d'ailleurs si on est dans une réalité ou dans un rêve, si on est dans ses pensées si les images sont réelles ou pas. Et vous jouez d'ailleurs en termes de réalisation avec le flou, avec le focus, avec est-ce que c'est net ou pas.
C'est ça,
et on ne sait pas si on est dans la réalité, dans un flashback,
tout
dans un
fait,
rêve ou autre.
Exactement, ouais, c'est, vous avez tout compris.
Et non, je sais pas. J'ai regardé.
Ça. Et avec de grandes séquences.
Et c'était aujourd'hui. C'est tout pour moi. Merci Paris.
Fin de l'année.
Nagui a compris un film. Yes.
Et Sophie, avec de grandes séquences aussi silencieuses, parce qu'il y a quand même un épisode au sein du film qui a une particularité hyper forte. C'est-à-dire que ce personnage-là va comme explorer quelque chose d'autre, quitter un peu le monde dissivilisé pour atterrir dans un endroit.
Sur un lac gelé.
Et arriver nu d'ailleurs, donc comme si c'était une sorte de renaissance, il se recrée, il est à la recherche de lui-même en fait. Et ça, c'est une séquence qui vient aussi marquer le rapport à l'amour en fait de ce personnage.
Ouais, absolument.
T'as aimé le voir nu sur un lac gelé, ça que tu veux dire.
Ouais, mais je pensais pas vraiment à ça en disant voilà, en parlant de cette séquence, mais avec cette famille,
quand même, hein.
Avec
ouais,
cette
ouais.
famille silencieuse.
Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il a pas brisé la glace. Je me dis, Thierry Godard marche sur un lac gelé.
Débrouillez-vous, Sophie.
Mec, ils ont fait un repérage hein, quand même pour être sûr que ça craque.
Même pas. Si tu savais comme ça craquait sous mes pieds, elles sont tapées. Elles me disaient, vas-y, avance.
Plus loin.
Non, j'espérais que la glace se brise. En
fait. Ah oui, en fait.
Oh, c'est moche.
Mais non, mais c'est pour le film, ah oui, pour le film, pas pour.
Pas pour perdre. Pour revenir sérieusement à la question, c'est vrai qu'on est à un moment de renaissance puisqu'il va être recueilli par des inconnus en plus.
Carrément. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, en fait, l'histoire d'amour, il y a surtout une histoire d'un homme qui va se retrouver face à lui-même et qui va comprendre réellement qui il est, en fait. C'est-à-dire qu'il se débarrasse de tous ses oripeaux. Et c'est pour ça qu'effectivement, il arrive totalement nu sur cette immensité gelée. Sublime. Et voilà, c'est la renaissance de cet homme. Ouais.
Est-ce que c'est un rôle, Thierry, genre de rôle qu'on vous a jamais proposé? On vous donne plus souvent des rôles dans des films que je qualifierais, je sais pas, d'action, de policiers, mais pas de comédie ou dramatique ou romantique.
Là récemment, Bovary, c'était un personnage un peu comme ça. Enfin, très amoureux, machin, rien à voir, mais
on peut même dire que dans Germinal, vous étiez aussi très amoureux.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, c'était pas le centre du sujet. Ni
du
de
sujet, ouais, exactement, t'as raison. Mais non, là, effectivement, d'être, c'est pas évident en fait. C'était dur même de jouer dans Sophie. Par moment, il y a des, enfin, tu vois, surtout quand tu vis ensemble et. Tu peux.
Vous avez dit de jouer dans ce film ou dans Sophie?
Devant Sophie. Ouais.
Devant Sophie.
Moi
devant
si
Sophie.
Mais une petite
moi j'ai entendu de jouer.
J'ai attendu.
Non mais attends.
Mais tu l'as pas reçu le colis Audica?
Non, il y a pas. Pardon.
Moi aussi, j'ai entendu. Non,
mais je pourrais le dire de jouer dans Sophie.
Oui. Je crois. Je crois, Thierry, que vous avez dit dans Sophie.
Non, mais j'ai entendu devant.
Moi, j'ai entendu devant.
Devant.
On va demander la vidéo, enfin
le replay.
Voilà.
La barre.
La barre.
C'est super dur parce que
c'est gênant.
C'est gênant surtout dans certaines scènes où un acteur est toujours sincère, on le sait bien.
Bien sûr,
de toute façon. Hein, mais il y a des petits moments quand même où t'as des petits trucs dans ta botte. Et là, elle te connaît tellement que
on peut pas la lui faire.
On peut pas la lui faire. Donc forcément, ça va chercher quelque chose de très très personnel. Peut-être que j'avais jamais donné sur aucun autre film parce que je voulais déjà pas la décevoir. Si je suis nul, elle va me quitter.
Peut-être qu'elle n'attendait que ça. Finalement.
Elle attendait que ça.
Elle s'est dit, je ne sais pas comment lui dire, donc je vais faire un film.
T'as déjà la glace, elle craque pas.
Et là, il va se rendre à l'évidence. Hein.
Bah oui, il va dire, tu vois, t'es un naze.
Tu vois.
Ouais, non, j'avais aucun doute.
Non, elle attend le jour de la sortie.
Et on a.
Elle attend les prochaines municipales. Ah bah, surtout. Ouais.
Et il y a des scènes. On a eu ce luxe en plus d'avoir. Tu vois, il y a une scène où il parle aux enfants. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et ça, on l'a tourné sur deux jours parce que voilà, on a fait 39 prises, 37 prises, je sais plus.
Vous êtes face caméra.
Je suis tout seul tant qu'elle avait pas ce qu'elle voulait, je recommençais.
Mais d'ailleurs, ce film, l'histoire de ce film, c'est écrite et c'est réalisée et produite sur plusieurs années.
Ouais, exactement. On a commencé à tourner il y a 3 ans.
Ouais.
Mais alors, vous aviez besoin de ça ou vous le faisiez entre des moments de liberté de vos plannings respectifs et
Non, c'est-à-dire qu'on a commencé à tourner il y a 3 ans, ça s'est quand même étalé sur 6 mois le tournage. Et ensuite, quand il a fallu commencer la post-production, en fait, il y a eu le Covid, quoi.
D'accord. C'est pas un problème de production, c'est un problème de pandémie plus qu'autre chose.
Mais vous n'avez pas tourné de façon traditionnelle, 4 semaines, hop, ou 5 semaines, et on enchaîne, et ensuite on fabrique le film.
C'est vrai que c'est un tournage assez particulier, parce que comme on le produit nous-mêmes, On était totalement libre et on faisait vraiment ce qu'on voulait, quand on voulait. Et ça, c'était quand même extraordinaire, comme expérience.
Hyper confort. Enfin, et confort, et en même temps.
Faut assumer ses choix. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si quelqu'un d'autre pouvait jouer dans le film? Quelqu'un d'autre, d'ailleurs, que vous et Thierry, puisque là, en l'occurrence, vous êtes vous aussi devant la caméra. Thierry est omniprésent et pratiquement de tous les plans. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes posé la question de mettre un autre couple et vous détacher totalement de ces rôles multicartes?
Jamais, parce que déjà, vraiment, c'est un film qui est né de nous deux, déjà, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment.
Oui, enfin, tous les scénaristes ne réalisent pas, ne jouent pas dans leur film.
En fait, ce qui s'est passé, c'est assez inhabituel, mais c'est que le scénario n'était pas écrit avant de tourner.
Ah, donc vous êtes en train d'écrire le scénario, là.
Et là, vous êtes en train de jouer dans un film, okay. Et vous ne le savez pas encore.
D'accord, c'est ça. J'adore.
Non, mais c'est vrai que, voilà, on a eu effectivement ce coup de cœur pour Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même de nombreuses années que j'ai envie de réaliser, en fait. Et que j'écrivais des scénarios dans mon coin, sur mon ordi.
Vous auriez pu faire un documentaire, à la rigueur.
Mais on est, pardon,
ouais,
on n'est pas
c'est
loin.
Vrai, mais moi, je suis plus fiction, je préfère raconter des histoires.
On n'est pas loin du doc, hein, si je peux me permettre.
Oui, ouais, d'une certaine manière. Ouais.
Dans la manière dans de réaliser
aussi.
Vous êtes sur une caméra, j'imagine, carrément. Un peu portable, en tout
c'est
cas.
C'est un 5D, c'est carrément un 5D. C'est un appareil photo qui filme, en fait.
Voilà, c'est ça. Il y a un grand angle qui vous permet d'avoir des focales très particulières et des angles confortables. Pas la lourdeur du cinéma, justement. C'est en ça que je parle de doc.
Exactement, et tout est porté, quoi, quasiment.
C'est ça. Alors, la vraie, véritable question de ce film, Sans toi, je le rappelle, c'est le 12 janvier qu'il sortira au cinéma, c'est de savoir si Thierry Godard a joué devant Sophie ou dans Sophie. C'est une question à laquelle nous allons répondre maintenant. Voilà. Écoutez ce document, c'est un document France Inter.
C'était dur même de jouer dans Sophie.
Voilà.
Il a dit devant.
J'ai dit devant.
C'est le masque.
Devant.
Tout sec.
C'est mon gros problème, ça.
On va continuer de parler avec Sophie Guillemin et Thierry Godard de Sans toi. Mais d'abord, voici Alexis.
Bonjour à tous.
Bonjour Tatoua.
Alors aujourd'hui, on parle de Sans toi, un film qui raconte l'histoire d'un homme qui part en Russie pour rechercher la femme de sa vie, disparue 4 ans plus tôt. Et cette histoire m'a fait penser à toutes les émissions de faits divers à la télé dans lesquelles un homme ou une femme se présente à la gendarmerie pour signaler une disparition et à qui un flic répond « Vous savez, la personne est majeure, elle a le droit de disparaître. Hein. Chaque année en France, 40 000 personnes disparaissent, donc si on commence à enquêter sur chacune d'elles, on n'a pas fini. Hein. Tu viens déclarer une disparition, tu te fais engueuler, quoi. » Alors la femme, elle insiste un peu, elle dit « Excusez-moi, mais il sortait juste les poubelles, il est parti sans ses papiers, sans argent, en robe de chambre, c'est pas dans ses habitudes, quoi. Et surtout, pour disparaître, c'est pas très discret, quoi. En plus, l'émission s'appelle « Volatiliser », ce qu'on ne retrouve jamais. Donc nous, on se doute bien que celui qui a disparu, a priori, il va pas rentrer chez lui 2 heures plus tard en disant « Le camion était passé, je suis allé jusqu'à la déchetterie. C'est plus loin que ce que je pensais. Hein. » Donc on a envie de le secouer, le flic. Mais il lui dit « Calmez-vous, il est trop tôt pour s'inquiéter. Si d'ici 48 heures, vous n'avez pas de nouvelles, là, vous nous rappelez, d'accord ? En attendant, essayez de penser à autre chose. C'est tout juste si vous ne lui dites pas « Mettez une alarme dans 48 heures, au cas où ça vous sortirait de la tête. » On peut essayer de penser à autre chose. Hein. Mais à un moment donné, si tu t'assois côté passager et que la voiture ne bouge pas, c'est qu'il manque quelqu'un. Quoi. Alors, parmi les 40 000 personnes qui disparaissent chaque année en France.
Ah, t'as les noms ?
Ouais, non. J'ai fait des recherches. Voilà. 2500 disparaissent volontairement. Et la moitié est retrouvée à peu près. Mais la loi n'oblige pas les gens à rentrer chez eux une fois qu'on les a localisés. Oui. Donc s'ils veulent pas renouer contact, la justice dit simplement à leurs proches, nous l'avons retrouvé, il va bien. Il a toujours sa robe de chambre, elle est un peu sale. Mais il veut pas vous voir. Et il clôture le dossier. Voilà, tout ça pour dire que disparaître, c'est légal. Oui. Des vocations ? Non, ça vous est jamais arrivé de vouloir disparaître, vous ? Moi, par curiosité, pour savoir où les gens iraient me chercher, déjà. Je suivrais ça à distance dans les journaux, tu vois, je serais là, froid, chaud, froid, tiède, refroid. Mais pourquoi ils me cherchent à Niort, putain, je fous jamais les pieds à Niort. Remarque, tu peux aussi disparaître et tout le monde s'en fout, il y a un risque. Hein. Ouais. Ta famille, rien, pas de réaction, tes collègues non plus, toi t'es là, bon. Remarque, il répondait pas déjà aux vœux, donc.
Un vieil rancœur.
Ça va traîner longtemps.
Ah, ça va traîner.
Il y a quand même quelque chose de fascinant dans les disparitions volontaires. C'est vrai, mine de rien, faut du courage pour tout quitter. Et puis bon, c'est pas cool pour ceux qui restent, c'est vrai. Mais bon, s'ils sont chiants, hein, c'est toujours mieux que de les tuer, quoi. La grande question, c'est pourquoi ils partent, les gens ? Parce qu'ils espèrent trouver ailleurs une vie plus agréable que celle qu'ils ont chez eux, sans doute. Mais peut-être aussi pour dire aux gens, vous avez vu, c'est quand je suis plus là que vous vous intéressez à moi, pourtant vous le savez. saviez que j'allais pas très bien. Ou parce qu'ils ont envie de savoir au bout de combien de temps leur pote Patrick va proposer à leur femme de la soutenir moralement, quoi. Un départ sans explication comme ça, ça s'appelle un abandon de domicile. C'est comme un abandon de poste, mais là, tu laisses tout. Ton job, ta maison, ta famille, tes amis, ton chien, putain, faut être fort dans la tête quand même. Sans compter que techniquement, disparaître des radars, ça doit pas être simple. Aujourd'hui, avec le pass sanitaire, tu peux même plus boire un café anonymement. Quoi. Du coup, au bout de 2 heures de disparition, t'es là, bon bah j'ai froid, je vais rentrer. Quoi. J'ai lu un article sur les destinations des gens qui partent sans laisser d'adresse. Alors, ils partent principalement en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, très peu en Russie ou en Islande, bizarrement. Quoi. C'est là que tu vois que même quand t'es au bout du rouleau, quand t'abandonnes tout ce que t'as, tu gardes quand même le réflexe d'aller dans des pays où tu vas pas te cailler les miches.
Bah, moi, ça va pas y
aller. Et où la vie est pas chère. Ouais. En fait, une disparition, c'est un échange Erasmus, quoi. Mais sans l'échange. D'ailleurs, au début du film, on vous voit marcher tout nu sur un lac gelé, tout nu, et on se dit, le pauvre, si seulement il s'était barré en Thaïlande, quoi, ou à Punta Cana. Et pour vous, à l'écran, ça aurait quand même été plus flatteur de marcher tout nu, mais dans de l'eau chaude, quoi.
Là, tu m'étonnes.
Là, on dirait The Revenant, mais sans budget costume. Alors, en ce qui me concerne, parfois je pense, moi aussi, Mbaré, hein, si je disparais un jour, par contre, vous pourrez me retrouver à Quetzalan au Mexique, voilà, je donne des pistes, ou à Chiang Mai en Thaïlande, j'hésite encore, ou peut-être à Bali, j'y suis jamais allé, mais il paraît que c'est sympa. Mais pas à New York, en tout cas, pas à New York. Allez, bonne journée,
messieurs. Merci. Alexis
Rossignol. Et on se retrouve tous les dimanches au théâtre Le République à Paris.
Il y a des ambiances angoissante dans ce film sans toi au niveau de la bande son. Il y a des chansons que vous interprétez, j'ai envie de dire guitare-voix. Il y a une chanson aussi, enfin un texte de chanson que vous jouez sans chanter.
C'est à quel moment?
Dans un dialogue.
Il y a du Claude François aussi.
Oui, c'est Claude François.
C'est ça?
Ouais.
Toi et moi.
Ouais, tu sais, quand t'es bourré.
Quand je suis bourré. Comme je suis bourré, je m'en souviens.
C'est toi et moi contre le monde entier.
Ouais, c'est ça. Seul toi et moi contre le monde entier.
Donc la musique est présente. D'ailleurs, est-ce que la musique compte ou pas dans vos vies? On va le savoir dans quelques instants. D'abord, je précise que Sophie Caladen sera notre invitée dans quelques instants. Elle a écrit Aimer sans mode d'emploi, suivre les chemins de son désir sur l'amour fou. On la recevra après avoir donc écouté votre bande originale. En 2002, Sophie, vous écoutiez. Notorious Big, vous écoutez cette musique, vous avez des images, un lieu, une situation particulière?
Ah ouais, j'ai des souvenirs géniaux de soirées hip-hop, parce qu'en fait, moi j'ai fait pas mal de danse. Et dont de la danse hip-hop. Et donc, à un moment donné, on avait créé un groupe, d'ailleurs, Big Up au FDK.
Tout est dans le nom.
Et un groupe, ouais, d'une dizaine de nanas, et on faisait de la danse
hip-hop. Que des filles?
Ouais.
D'accord.
Et on faisait de la danse hip-hop ensemble, et moi, j'ai vite arrêté pour commencer le cinéma. Mais du coup, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on allait danser de 23h à 5h du mat.
Sur ce genre de musique?
Ah ouais, que des trucs comme ça.
Juicy.
C'est une religion. Hein.
Et en 2002, Sophie, vous décidez d'arrêter le cinéma?
Ouais.
Vous arrêtez de tourner, il y a l'apparition dans votre vie de la foi,
ouais.
Vous convertissez à l'islam quelques années avant, 2-3 ans auparavant,
ouais.
Et ce qui fait que votre foi prend le dessus ou vous avez envie de faire autre chose? Comment ça s'est passé?
Bah, c'est vrai que c'était un méli-mélo de plein de choses, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais dans cette foi, j'avais envie d'aller au bout de cette foi et de la vivre pleinement. D'un autre côté,
en allant jusqu'à vous voiler.
Ouais.
Volontairement.
Ah oui, bien sûr.
Non, mais c'est intéressant, ouais. Parce qu'on parle.
C'est vrai qu'il faut le dire.
On parle toujours du voile.
C'est tout le débat.
On parle toujours du voile. On parle toujours du voile comme une contrainte.
Évidemment.
Et on donne jamais la parole à des femmes qui se voilent.
Bien sûr.
Volontairement.
Oui, enfin, c'est vrai que c'est très
important. Oublier qu'il y a des femmes qui portent le voile sous la contrainte aussi. Mais
sans doute, mais sauf que comme on leur donne jamais la parole.
C'est vrai qu'en France, je pense quand même qu'en France, la majorité vraiment, elles le choisissent, quoi. Et c'est vrai que oui, moi j'avais, comme je suis assez jusqu'au boutiste, on va dire, et que je m'étais convertie, j'avais besoin d'aller au bout de cette conversion et d'expérimenter le port du voile parce que voilà, je voulais aller au bout de ça.
Qu'est-ce qui a fait que l'islam tout d'un coup a été a révélé votre foi?
C'est ça, comment on découvre une religion, ouais, en fait?
Bah, après,
à l'âge adulte, on sait que enfant, ce sont les parents, la famille qui transmettent la culture.
Moi, c'est l'inverse. Mes parents, ils sont totalement athées, quoi. Et alors que moi, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, vraiment, je crois en autre chose, si vous voulez. Vraiment, je suis assez spirituelle, dans le vrai sens
oui,
du terme.
Oui, mais l'autre chose, il y a plusieurs religions monothéiques qui sont possibles. Pourquoi celle-là?
Et ben parce qu'effectivement, donc petite, du coup, je suis allée au catéchisme avec des copines qui étaient obligées d'y aller mais pour me renseigner. Bon, clairement, moi, ça m'a pas parlé. Ensuite, après, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'était avant 2001, quand même. C'est très important, parce qu'en fait, il y a quand même eu une...
Après les tours jumelles, ça a été compliqué d'être musulman dans le monde. Ouais.
Une révolution un peu par rapport justement à l'islam.
C'était compliqué d'être musulmane ou d'y croire?
Compliqué?
Oui. Qu'est-ce qu'il y a, quand vous dites après les attentats de New York Trade Center,
après les attentats, c'était
compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué? Votre foi ou le regard des autres sur le voile?
Non, le regard des autres. Ah, oui, c'est-à-dire que, ouais, carrément, ouais. C'est-à-dire que.
On peut perdre la foi comme on peut la trouver aussi.
En fait, si vous voulez, c'est
que ce sont des terroristes, donc c'est pas vraiment des religieux qui.
D'où ma question.
En fait, c'est pour dire que moi, je me suis convertie en 99. À cette époque-là, l'islam n'était pas un sujet, quoi. Ça n'existait pas comme sujet de la société française, quoi. Et donc, c'est vrai que j'étais curieuse des religions. J'ai rencontré le père de ma première fille, qui est comorien, qui est donc de religion, de culture musulmane. Bon, après, c'est pas un ayatollah, hein. Je l'ai rencontré en boîte de nuit, on était bourrés tous les deux. Enfin... Non, je le dis parce que c'est vrai que quand je me suis convertie, après tout le monde a dit « Ah oui, elle l'a fait pour un homme ». C'est un peu les poncifs. Voilà. Mais ça ne s'est pas du
quand
tout
on,
passé
quand
comme ça.
Connaît pas,
quand on ne connaît pas, on peut s'imaginer ça.
On raconte
ça.
N'importe quoi, oui.
Et voilà, et moi comme j'étais vraiment en demande de concrétiser, je ne sais pas comment dire, cette foi que j'avais, je me suis intéressée à cette religion, mais je suis allée acheter genre un Coran pour les nuls à la FNAC, quoi.
Documenté, quoi.
Ouais, je me suis documenté. Et c'est vrai que ça,
bonne idée.
Ouais. Et c'est vrai que ça m'a plu parce que j'aimais le rapport direct entre Dieu et son croyant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le clergé, il n'y a pas à se faire baptiser. Bon, c'est vrai, voilà, moi, c'est pas trop mon truc. Et là, en gros, j'aimais le côté complètement direct où on est chez soi, on décide de se convertir et on prie si on a envie et on fait ce qu'on
veut. Donc, vous avez été confronté à la même situation que Diams, c'est-à-dire ne pas pouvoir, aller au bout de sa foi, porter le voile et continuer son métier comme on le faisait avant.
Bah, c'est vrai que moi, dans mon cas, où il fallait quand même se dénuder, embrasser des mecs et tout, et j'y voyais quand même une certaine contradiction. D'une part, et pour répondre à la première question, il y avait aussi plein de trucs, parce qu'en même temps, moi, j'avais vraiment envie de devenir maman. C'était une espèce d'obsession pour moi, voilà, et j'avais envie de le devenir et de l'être à temps plein. Il y avait aussi le fait... que moi, j'ai commencé le cinéma sans avoir fait de cours ni rien. Ça m'est un peu tombé dessus du jour au lendemain où tout d'un coup, j'ai eu un énorme succès. Et que très clairement, c'est assez dur à gérer, en fait. Ça, je le dis avec le recul. Mais sur le moment, on se le dit pas comme ça. Mais sauf que c'est quand même compliqué. Il y avait aussi le fait qu'on...
C'était dans Harry, un ami qui vous veut du bien, donc, quand vous parliez de cette...
Du début.
Il y avait l'ennui de Cédric Kahn.
Oui, et puis le
et après Harry,
succès,
carrément.
Et alors, aujourd'hui, vous n'avez plus le voile. Donc, à quel moment vous l'avez abandonné? Et pourquoi?
Bah en fait, c'est ça qui est bien aussi en France, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc si vous voulez, moi je l'ai mis, je crois, donc en 2002, je l'ai mis 2 ans, un truc comme ça, je l'ai re-enlevé, je l'ai remis genre 10 ans après, 1 an, je l'ai re-enlevé. Enfin, on vit ce qu'on a à vivre et comme on a envie de le vivre. Donc il y a des moments, si vous voulez, c'est aussi un peu, je fais le parallèle maintenant, parce qu'on en parle beaucoup, du yoga, de la méditation. En fait, ça rejoint énormément ça, quoi. C'est-à-dire que prier, c'est une sorte de méditation, on se recueille.
Oui, ça vous empêche pas de continuer d'être pratiquante et peut-être...
Alors, je suis plus pratiquante et je suis plus inscrite dans une religion.
Vous êtes redevenue athée? Peut-être
non, pas athée, je garde ma foi, mais je ne veux plus m'inscrire dans une religion, en fait.
D'accord.
Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je me souviens de vacances à l'île Maurice, ça n'a rien à voir.
Oui, mais pourquoi pas,
Il était à poil sur un lac gelé à Moscou, il y a un moment, il a envie d'aller au chaud.
Je discutais avec des Mauriciens, et les Mauriciens passent, il y a les trois religions là-bas qui sont très présentes, et je me souviens de Mauriciens...
Et qui vivent parfaitement ensemble, en plus.
Ça, et je me souviens d'une Mauricienne qui disait, ouais, l'année prochaine, j'ai envie d'être bouddhiste, et peut-être que, ouais, musulman, peut-être dans 2 ans, j'essaierai. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de super simple, en fait, avec ça.
Comme on est essaye le yoga.
Comme on essaye le yoga.
On passe à l'électrique.
Non, mais tu vois, c'était, j'ai trouvé ça d'une simplicité, voilà, parce que les gens veulent expérimenter. Nous, on a quand même l'empreinte des cathos ici. C'est-à-dire, si tu fais autre chose, c'est compliqué.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça pousse à la connaissance de la religion, parce que ce qui pose un problème pour tout le monde, c'est la non-connaissance devient évidemment le rejet. On ne connaît pas l'autre, et c'est valable pour les religions comme pour les éducations ou les cultures. Si on ne connaît pas, c'est que c'est forcément l'ennemi.
Je pense qu'il y a des femmes en France qui portent le foulard Hermès par contrainte aussi, tu vois.
Vous, Thierry Godard, dans ces années 2002, vous écoutiez... Grand Tourisme.
Et on vous retrouve, Thierry, sur scène dans Surprises et Conséquences.
Ouais, c'est par rapport à ça, justement.
Alors, justement, dites-nous.
Eh ben, Surprise en conséquence, c'était une pièce, voilà, je crois qu'il y avait un morceau de Grand Tourisme dans cette pièce, et c'est une pièce super, on était toute une bande, il y avait Ariel Mallet, il y avait Perkins Liotet, Charlotte Desgeorges, et on a démarré ce truc vraiment, on répétait dans un petit salon, et la pièce a eu un succès assez dingue. Voilà, on s'est retrouvés, c'était très festif, on faisait la fête tous les soirs, il y avait cette pièce qui marchait bien, on faisait marrer, enfin c'était, voilà, c'est un bon souvenir.
Et ça vous a permis de décrocher un agent, je crois.
Ouais, parce qu'avant j'avais des agents un peu, mais c'est Laurence Coudert, mon premier agent, qui m'a fait bosser, Laurent, Lolo, bonjour Lolo, c'est un super agent.
Qu'est-ce qu'elle vous a permis de développer, cet agent?
À quoi ça sert un agent?
Alors il y en a qui disent que changer d'agent c'est changer de siège dans le Titanic.
C'est joli.
On va quand même vers sa perte, quoi.
Non, mais un agent, ça
peut... c'est quoi qu'il tue,
un agent c'est très important pour accompagner une carrière, pour nous mettre déjà sur des choses. Voilà, puis ça offre une crédibilité aussi auprès des professionnels. Et puis voilà, Laurence est un très bon premier agent. Enfin, c'est une femme très talentueuse. Très douce, j'étais très content d'atterrir chez elle.
Et c'est à cette période que Pascal Chaumeil vous repère aussi.
Ouais, qui me fait jouer avec Pascal Arbillot et Jean-Pierre Lory dans Mère belle, mère agitée. Ouais.
En 2020, Sophie Guimain, vous écoutiez... Rage Against the Machine, et en 2020... On retrouve Sophie où ?
2011, on retrouve Sophie...
Non, 2020.
J'ai dit 2020, je crois. En fait, ça m'aurait intéressé de parler 2011, mais je le ferai pas.
Si tu veux.
Non, parce que vous faites en 2011, vous faites votre premier court-métrage, et je trouve que le sujet du court-métrage est super.
Ah, super.
L'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une quinquagénaire. Et en fait, c'est marrant parce que vous avez beaucoup d'avance. Ouais, parce qu'en 2011, c'était à peine un sujet... ou un sujet comme ça dont on rigolait, et là je commence à voir des films qui sortent sur ce sujet-là, notamment avec Melville Poupeau et
Fanny Ardant,
dont il va être question de cette histoire d'amour un peu inversée sur les âges. Donc c'était juste
c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était bien avant effectivement MeToo machin, et il y avait une espèce de mode, c'est le jeunisme à donf, quoi. C'est-à-dire que tous les magazines de mode
il n'y a pas de rapport entre l'âge dans le couple et MeToo. MeToo, on est dans l'agression.
Non, MeToo, c'est vrai que c'est pas MeToo, c'est plus la parole féministe de dire que les femmes, après 50 ans, il faut qu'elles soient représentées au cinéma. C'était plus général. MeToo.
Plus
super
le côté,
large,
les femmes font ce qu'elles veulent.
Ouais.
D'accord.
Et en 2020, pour revenir à cette année-là, vous retrouve dans Capitaine Marlowe, réalisé par José Dayan.
Ah, quand même.
Et aussi dans la série H24.
Ouais.
Sur TF1, je crois.
Ouais,
c'est ça. En tant que comédienne et dans les rôles, maintenant, comment vous appréhendez aussi votre pratique, votre métier dans cet après? Il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Il y a des choses qui. Est-ce qu'on change un petit peu dans la façon d'opérer ses choix?
Ça s'est fait tout naturellement, donc c'est vrai que ça, je suis assez contente de ça. Et finalement, mes pauses cinématographiques m'ont peut-être servi à ça aussi. C'est qu'à l'époque, effectivement, de L'ennui d'Harry, j'étais vachement vue, enfin en tout cas employée pour le rôle de la jolie bébête, quoi, en gros. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'arrêter à un moment donné. Et là, tout naturellement, et bizarrement, enfin étrangement, on propose quasiment que des rôles de femmes super autoritaires. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà, ça, ça s'est
bizarre,
fait comme
chérie,
ça.
C'est bizarre, quand même.
Le danger de venir en couple, c'est ça.
Avec cette voix douce.
Ton, avec cette voix douce, tout y est. Tout y est.
Sans ce timing.
Vous, c'est bizarre qu'ils ne me connaissent pas dans la vie.
Mais Thierry Godard, justement, on parlait de, tiens, d'arrêter des histoires et des aventures en 2020. Et c'est pratiquement à ce micro aussi qu'il était venu annoncer l'arrêt, entre guillemets, de,
ah oui, d'Engrenage. La huitième et dernière saison d'Engrenage. Ouais. Gilou.
Ouais.
Gilou qui n'est plus vraiment un flic en plus. Bah Gilou, c'est la déchéance de Gilou.
C'est vrai. C'est vrai, c'est la fin de Gilou, ouais. Non, non, j'ai mis ce morceau en hommage à un acteur qui avait joué avec nous et voilà, et qui est décédé pendant le tournage. Et ouais, bah la fin d'Engrenage, ouais, mais bon.
La fin d'une grande aventure.
La fin d'une très grande aventure.
Et d'un grand succès aussi, parce que c'est ça, je pense que vous êtes aussi le maire du village.
Ouais.
Et puis mondial.
Parce que vous êtes aussi une figure importante dans. C'est l'émergence Engrenage, c'est aussi quand même, il faut le rappeler, c'est l'émergence de la série qui arrive tout d'un coup dans la consommation quotidienne des gens. C'est une série française, c'est une des plus. Voilà, des premières séries qui rassemble autant de monde en fait.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je le constate tout le temps, quoi. Mm-hmm. Les gens, il y a même des gens qui découvrent maintenant, parce qu'il n'y avait pas Canal et qui. Et qui achète encore enfin, qui le découvre autrement, quoi. Mais en tout cas, c'est une série très importante pour moi et je suis très,
oui,
très fier.
Qui a marqué, c'est sûr.
Très fier d'avoir été dedans. Ouais.
Revenons à l'amour avec Sans toi, donc le film qui sortira le 12 janvier prochain, réalisé porté par Sophie Guillemin et Thierry Godard, qui sont nos invités. Avec vous, Sophie Cadalen, bienvenue.
Bonjour.
À ce micro, Sophie. Vous êtes psychanalyste et écrivaine. Vous avez donc signé Aimer sans mode d'emploi, suivre les chemins de son désir et inventer son couple, préserver le désir au quotidien et tout ça, les deux livres aux éditions Erol. Donc il n'y a pas de mode d'emploi pour aimer ou...
Ah non. C'est la rencontre de deux personnes avec leur singularité, avec leur histoire, avec leur névrose, avec leur fantasme, comme disait Sophie Guillemin tout à l'heure. Donc c'est forcément une invention. C'est pour ça que c'est un terrain qui nous intéresse tant, c'est qu'on essaye de trouver des généralités, des normes. Il y a des récurrences, bien sûr. Mais comment on va les vivre, les interpréter, les nouer l'une avec l'autre, c'est toujours une création.
Mais quelle est votre définition de l'amour ?
Ah, j'en ai aucune. Ou alors je passe mon temps à la chercher. Non, il y a plein de confusions autour de l'amour. Il y a de l'attente, il y a de la projection, il y a du transfert, bien sûr. Il y a souvent plus d'attente de l'autre que vraiment de don de soi. Et je ne sais pas si on peut toujours parler d'amour dans ces cas-là. Non, c'est un terme très mystérieux encore pour moi. C'est sans doute pour ça que je l'explore encore.
Est-ce que l'amour impossible tel qu'on peut l'imaginer dans le film est quelque chose que soit on cultive, soit tout le monde ne l'a pas, c'est-à-dire est-ce que chacun garde en soi cette notion d'amour impossible, c'est-à-dire on court après l'amour avec un grand A que l'on n'atteindra jamais, c'est le propre de tout le monde ?
Non, pas comme ça. Ça a des côtés entre guillemets pratiques, l'amour impossible. Ça permet d'être continué à rêver, d'être imaginé, d'être pensé comme l'ultime aboutissement et tout irait bien quand
on l'aurait rencontré. Ça entretient l'envie et le désir.
C'est ?
Ça entretient l'envie et le désir.
Non, ça entretient l'idée qu'il y aurait un lieu où tout serait parfait, où on serait enfin heureux, où on se serait trouvé, on aurait trouvé l'autre. Alors là, pour le coup, c'est la quête impossible. Non, on est toujours en devenir, on est toujours être vivant, c'est y aller toujours. On sait pas bien où, enfin c'est un peu quand même, mais c'est y aller toujours. Mais là, dans ce film, ce qui me paraissait intéressant, c'est que plus qu'une histoire d'amour, me semble-t-il, on voit un homme qui, par cet amour, par ce transfert, finalement va résoudre bien d'autres choses. C'est de lui dont il est question d'abord et surtout, plus que de lui avec elle. De lui à cause d'elle, de lui grâce à elle, de lui par elle, dans elle, comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas tant que ça l'histoire d'une relation amoureuse, au sens qu'il y a de l'un, il y a de l'autre. Il y a quelque chose qui se joue là, qui va complètement changer sa vie, qui le révèle à lui-même, qui lui donne, me semble-t-il, beaucoup d'occasions peut-être de se perdre définitivement ou de renaître, ce qui me semble arriver dans ce film. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour au sens de l'histoire de quelqu'un avec quelqu'un d'autre? Ça, je ne suis pas sûre.
Est-ce qu'on n'a qu'une histoire, qu'une vraie histoire d'amour dans nos vies et finalement tout le reste, on l'a appelé ça de l'amour ou des aventures, mais ce n'était pas vraiment de l'amour?
Alors, ça nous rassurerait, ça. On aime bien se penser dans une espèce de comptabilité tout à fait gérable. On a un amour, on a donc on coche la case ou pas. Ben non, la vie est plus surprenante que ça. Et comme le chant de Barbara, l'amour, ça se conjugue toujours. Enfin, ça se conjugue, ça se décline avec toujours et jamais. On s'aimera toujours et jamais on a aimé comme on aime cette fois-là. C'est à chaque fois une découverte. On est totalement naïf dans l'amour. Même si on a beaucoup aimé, même si on a aimé plusieurs fois, on a l'impression quand on aime que c'est une première fois.
Aimer sans mode d'emploi, c'est le premier ouvrage. Et puis Inventer son couple, préserver le désir au quotidien. Les deux sont aux éditions Erol. Merci Sophie Cadalen d'être venue à ce micro. Voici les prix de la semaine, monsieur Tom Villa.
Oui.
Il s'agit de quoi cette semaine, Tom ?
Aujourd'hui, on va décerner le prix de « Ça commence comme une vanne ». Et non, en fait, c'est pas une vanne. Dans cette catégorie, les noms et sons.
Je t'emmerde.
Premier nommé, Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Je trouve ça dégueulasse. De parler comme ça, c'est méprisant. Heureusement que beaucoup de non-vaccinés sont en réa et qu'ils n'entendent pas ça. Franchement, moi, ça me choque. Deuxième nommé, l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, qui a proposé un défi à une enfant, mettre ses doigts dans la prise.
Mais non !
Si, je te jure que c'est vrai. La prise de pouvoir des machines, ça avait quand même plus de gueule dans Terminator. Hein. Et troisième et dernier nommé, la Chine qui a décidé d'interdire à ses joueurs de foot de se faire de nouveaux tatouages. Non plus qu'ils leur interdisent de faire la fête avec des escortes, et là il n'y a aucun joueur occidental qui a joué là-bas, c'est sûr. Et le grand gagnant dans la catégorie de ça commence comme une vanne, mais non, c'est pas une vanne, et...
Alexa.
Les tatouages pour les footballeurs chinois.
Bah oui.
La Chine a interdit de casser les footballeurs.
Alexa, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Mais de là à tenir 4 minutes, franchement.
Ah oui, d'accord.
Voilà. La Chine a interdit donc à ses footballeurs de se faire de nouveaux tatouages. Alors c'est vrai que c'est liberticide, mais quand on voit jusqu'où ont pu aller les joueurs occidentaux au niveau style, est-ce qu'on a vraiment envie de donner tort aux Chinois? Non, mais surtout que ça vieillit mal, un tatouage. Je veux dire, le nombre de personnes qui ont demandé un croissant de lune et qui finissent à 50 piges avec un pain au chocolat sur l'épaule, ou une chocolatine. Et puis, c'est un art qui est très dur. Je veux dire, quand tu demandes le portrait de quelqu'un à tatouer sur ton épaule, mettez le nom de la personnalité en dessous. Ça évitera, là. Bah, dis donc, il est bien fait, Enrico Macias. C'est Johnny. Pardon. Johnny Clegg. Ah oui, d'accord, ok. Putain. Surtout qu'en plus, quand tu te fais tatouer, généralement, tu prends des symboles que t'aimes bien, mais dans d'autres cultures. Le nombre de ch'tis qui ont des dessins tribaux sur le bras, alors pour eux, les Maoris, c'est des Pokémon. Ou, combien ont des symboles chinois ou des dragons, alors qu'ils ont la tête de Jean-Michel Blanquer. Je veux dire, bon. Tu crois qu'il y a des Chinois qui se sont fait tatouer sur l'épaule à un coq, une baguette ou un gilet jaune? Non, je pense pas. Par contre, est-ce que c'est bien vu niveau com pour le pouvoir chinois? Je veux dire, quand la Chine massacre ses étudiants, on ferme les Ouïghours dans des camps. Dans des camps où fait disparaître des joueuses de tennis. Là, ça calme bien la population, c'est flippant. Mais interdire les tatouages aux joueurs de foot, ça fait pas dictateur impitoyable.
Nous, on avait un Suédois, excuse-moi, je te coupe. Il y a un Suédois qui te rappelle qui était venu réparer la maison, enfin, un menuisier qui avait un Tampax tatoué sur la cuisse. C'était pas mal.
Un Tampax sanguinolent.
Sanguinolent.
Oh non, ah ouais. Merci pour le détail.
C'est la fin de cette chronique.
C'est pas sale.
Non, c'est la vie, quoi. Non, il n'y a aucun souci. Il
n'y
a pas de problème. Alexis, toi, t'avais pas eu une capote sur le.
Non, je l'ai toujours.
Non, mais c'est vrai que ça fait pas vraiment dictature. On dirait plus une décision d'une mamie réac du 16e arrondissement. Ça, t'as plus l'impression qu'il y a une vieille de Versailles qui a dit, là, le tatouage, je trouve que c'est extrêmement vulgaire et choquant. Et hop, Xi Jinping, il a dit, ouais, t'as raison, Marie-Chantal, on va les interdire. Alors, pourquoi est-ce que la Chine interdit les nouveaux tatouages aux footballeurs chinois? Parce qu'ils veulent, je cite, reprendre la jeunesse en main et mettre fin aux tendances vulgaires. Souple, c'est pas son deuxième prénom à Xi Jinping. Petite parenthèse, Xi Jinping, il a réussi à faire plier Amazon, qui n'a pas le droit de donner des notes inférieures à 5 étoiles sur 5 à son propre livre sur Amazon. Xi Jinping, il aime les gens sans tatouage, très propres sur eux, et qui disent jamais du mal des livres qui sortent. Il va l'adorer, Laurent Delahousse. Vraiment. Donc là, ils interdisent les tatouages. Et puis là, avec la Chine, t'as pas envie de tenter le « et sinon quoi ? Vous allez me faire quoi ?» Ben sinon, t'as déjà bu de l'acide chlorhydrique par le nez? Non, c'est, d'ailleurs c'est pas vrai, parce que vous allez me faire quoi? Par exemple, David Beckham, il a la réponse. Quand il passe à la télé en Chine, je vous jure que c'est vrai, les zones où il a des tatouages sont floutées. Donc du coup, à la télé, les Chinois pensent que David Beckham, c'est un homme tronc. Il va expliquer qu'un homme tronc a été l'un des meilleurs tireurs de coups francs du monde. Si ça se trouve, pour les Chinois, Philippe Croizon, c'est un super champion de tennis. Tu vois. Alors nous, on trouve ça un peu abusé comme annonce. Je peux vous dire qu'en Chine, c'est une joie pour eux, cette interdiction. C'est-à-dire quand t'es footballeur et que tu lis une annonce concernant les footballeurs, là, t'es en flip. Putain, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'on va être déporté? On va être enlevé en prison? On a juste pas le droit de faire des tatouages? Ah, bah, c'est cool! Non, alors la Chine veut bannir les influenceurs vulgaires. Bon, en gros, il y aura jamais les Marseillais à Pékin. Et j'ai enfin une bonne excuse pour mater les princes et les princesses de l'amour sur WNF. Bah, c'est pour lutter contre la dictature chinoise.
Merci, Tom Lille.
Et Tom, on se retrouve en spectacle.
Oui.
Je sais pas pourquoi. Un tatouage, avec plein de tatouages, à partir du 29 janvier à l'Européen. Allez-y, ça va être chaud.
Tom Di Pastoro, de quoi parlons-nous aujourd'hui?
Je veux parler des Anglais, ces gens ivres et livides, qui ont tenté une campagne de pub anti-migration en Afghanistan afin que les Afghans ne viennent plus chez eux.
C'est la bande originale avec les Académies d'Asie. Nous parlons de ce film que vous avez, votre premier long métrage, Sophie Guillemin, en tant que réalisatrice, qui sortira ce 12 janvier, avec Thierry Godard, notre invité également à vos côtés, Julia Faure, Catherine Wilkening, Laura Presgurvic, Mélanie Maudran, Bruno Solo, Véronique Solo aussi, puis les enfants, vos enfants, c'est-à-dire que vous avez vraiment que ce soit un film aussi familial, choral et intime, parce que vous y avez mis les enfants de tout le monde, j'ai envie de dire, les vôtres et ceux des autres.
J'ai mis tous les gens que j'aime dedans.
C'est vrai? Non, mais c'est rassurant quand on fait un premier film comme ça, d'être entouré par de bonnes vibrations, même si y a Bruno Solo, parce qu'il faut quand même rappeler qui est ce monsieur, c'est pas grave, mais un jour la vérité sortira.
Ah, tu dis monsieur, toi, en plus?
Ben, je dis monsieur quand il s'agit d'un repris de justice, oui, je dis monsieur. Non, mais blague à part, c'est ça?
Non, c'est vrai, ouais. Tous les acteurs en dehors de nos enfants sont mes amis dans la vie.
Ah, vous n'aimez pas vos enfants, d'accord.
Ah, bah, mes enfants, c'est plus fort que mes amis, quand même.
Il se lance
c'est
à corps. Thierry Godard se lance à corps perdu et c'est vraiment. J'emploie cette expression volontairement parce que c'est vraiment ça quoi. Il va perdre son corps dans la nature et pas que son corps, la tête qui va avec aussi dans cette quête d'un amour impossible ou de l'amour idéal.
Exactement, ouais. Il se perd totalement dans la campagne russe et il se perd aussi lui-même évidemment. Pour mieux se retrouver.
Se retrouver devant la caméra de la femme de sa vie, dans des situations de physiquement dures à vivre, parce qu'on a ri tout à l'heure sur votre nudité sur un lac, mais on imagine que physiquement, d'abord, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça doit brûler les pieds, parce que là, on sait que la glace, ça brûle la peau. Donc se retrouver allongé nu sur un lac gelé
Faut pas que ça dure, en fait.
En Russie, ouais, c'est pas un truc dont
tout le monde va y aller, quoi.
Allez, hop,
est-ce que cette scène est tournée en Russie, d'ailleurs, ou c'est un lac?
Non, ça, effectivement, on a triché, ouais, c'est en Suède, ça.
Ah, c'est en Suède.
C'est en Suède.
Enfin, ça reste froid, quand même.
Non, mais j'ai reconnu la Suède.
Genre,
c'est vrai, si, il y a un arbre à un moment donné, je dis Suède.
Mais tu vois, par contre, la nudité, alors, devant Sophie, j'avais
pas de problème.
On se connaît suffisamment pour être nu devant la nana. Mais c'est plus dur devant mon fils qui, à un moment donné, Lino, qui me prend par... Et puis, putain, papa, tu fais chier, quoi.
Faut vous porter,
tu vois, ouais, ça le... Non, pas porter, mais de me voir à poil, quoi. Ça le gênait énormément, quoi. Je dis, ah, bah, me fiston, t'inquiète pas.
On peut le comprendre.
Je comprends, ouais.
C'est papa. Non, mais voilà, c'était plus dur.
Avec cette voix.
Ah, oui. Ouais, bah,
c'est ça. Et on l'hyper souvent dans le Nord.
Je précise qu'un papa nu devant son fils en lui disant, t'inquiète pas, c'est papa. Il y a des procès qui démarrent.
Il y a plein de prisons, hein.
Et généralement, ça finit par, ça sera notre secret.
tu dis rien.
Hommage à Guillermo Guise avec une des nombreuses vannes de son spectacle. Une des vannes de son spectacle.
Puis c'est pas dans le casier.
Est-ce qu'il y a des scènes où que vous appréhendiez ou même où vous demandiez à Sophie s'il fallait vraiment la jouer telle quelle parce qu'elle n'était pas facile, entre guillemets.
Ouais, mais
même si un acteur aime bien aussi les scènes difficiles.
Tout le temps, il y a ici, là, je reviens sur la scène où je parle aux enfants, tout ça, où, parce que sur là, je parle, les enfants n'étaient pas là, on avait tourné avec eux pendant les vacances. Après, ils étaient à Paris, nous, on est reparti tourner en Suède, c'est ce moment-là, donc je parlais dans le vide, ils n'étaient plus là, en fait, tu vois. Et là, on était tous les deux, et franchement, c'était dur de se lâcher. Complètement,
et l'histoire, sincèrement. On a évoqué tout à l'heure soit l'amour impossible, soit l'amour idéal, soit l'amour unique. Vous la vivez comment, cette histoire? Puisque tout à l'heure, Sophie Cadalen disait que c'était essentiellement lui qui faisait ce voyage initiatique et tout était basé sur lui. Donc vous, qui jouez cet homme perdu en amour, vous l'interprétez comment?
Comment je l'ai vécu pendant le tournage? En fait, il y a eu des moments où j'ai compris ce que je jouais. C'est bizarre, hein, mais à certains moments clés, par exemple quand il la voit à la fin et qu'il la voit avec l'enfant et avec la terrasse de café, elle a refait sa vie. Et là, qu'est-ce que tu vas chercher toi à l'intérieur en tant qu'acteur dans une situation comme ça? C'est là où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Imagine cette situation, t'étais fou amoureux d'une femme que t'as cherchée pendant des mois et tu sais où la retrouver, tu la vois à une terrasse,
ça doit le brûler.
Ouais, voilà. Ouais. Et c'était compliqué hein, cette scène, on savait pas. Je me dis est-ce que je me jette par terre, je laissais venir un peu les choses et puis bon on a fait.
On a essayé plusieurs choses, on a essayé la tristesse, la colère, l'ahurissement, et puis en même temps, on a tout gardé aussi à la fois.
Au-delà de ce côté expérimental, pour vous, c'est l'histoire d'un homme qui court après son seul amour, ou c'est un homme qui se fait un délire sur une histoire d'amour qui est impossible?
Non, il se fait pas un délire. Je crois c'est quelqu'un qui a des regrets, qui a pas à un moment donné mesuré ce qu'il était en train de vivre, qui a pas mesuré l'amour qu'il était en train de vivre, et qui d'un seul coup se dit, mais en fait, cette femme, je l'aimais plus que ce que je pensais, et voilà, c'est plutôt un regret énorme, et je pense qu'il y a de l'orgueil aussi en lui, après, enfin, il y a beaucoup de choses.
Sans toi, on n'a pas précisé d'ailleurs que vous êtes négociant en vin, précisé que vous aviez de la cuisse dans le film, mais on a précisé que vous jouiez quand même le rôle d'un négociant en vin, le film sortira le 12 janvier, signé Sophie Guillemin, voici Monsieur Tanguy Pastoureau.
Franchement, être migrant, c'est pas facile. Hein, déjà, il faut aimer marcher. Dans l'appli santé du smartphone, à la fin de la journée, parfois, vous avez 200 000 pas. Moi, quand j'en fais 90, j'ai l'impression, niveau sport, d'être Neymar quand il est performant, c'est-à-dire au beer pong, en pleine fiesta avec ses potes. Si on est migrant, on traverse pas la frontière. Comme tout le monde, il faut passer par la montagne. Enfin, vous avez Google Maps sur 900 km qui vous dit « faites demi-tour ». Et surtout, on est mal considéré par les autochtones. Parce que les gens du cru ont toujours l'impression d'être mieux. Hein, la plupart du temps, leur plat typique, c'est l'andouille de jument. Leur danse traditionnelle, on dirait ta sœur épileptique quand elle convulse. Leur langue, c'est un patois guttural. Rien que pour demander le sel, il y a 40 R. Ça fait le même bruit quand un castor découpe un pain. Mais ils se sentent supérieurs aux autres, juste parce qu'ils sont nés à Saint-Martin-des-Trois-Sentiers. D'une mère de Saint-Martin-des-Trois-Sentiers et d'un père de Saint-Jacques-des-Loutres, juste à côté, mais qui a su s'intégrer à Saint-Martin-des-Trois-Sentiers à force d'anisette. Prenez la France, arrêtez l'immigration. Moi, je suis pour. Il y a trop de gens dans ce pays, ça fait un bruit fou. Et à la caisse au Franprix, il faut attendre 20 minutes pour payer un paquet de tuques. Ça fait 37 secondes par tuque. Mais quand on parle de protéger nos valeurs, enfin, quelles valeurs? La dernière à s'être battue pour la France, c'est Barbara Pravi à l'Eurovision en imitant Piaf. Elle a perdu face à un groupe d'Italiens cocaïnomades à tétons percés. La France s'est foutue. La nation de Victor Hugo est devenue celle d'Hugo des Ch'tis. Quant à Lamartine, il a été remplacé par la Martine de Lille, la mère Aubry, qui est tellement pageoise qu'en un regard, elle peut caster symboliquement même les gens qui n'ont pas de testicules. La France en 2021, c'est juste un panel de coins instagrammables pour Chinois. Où tous les deux ans, les fans de Marine Le Pen lisent le nouveau Houellebecq, un de leurs deux bouquins de l'année avec le Goncourt, sauf celui de 2020 parce que c'est un noir qu'il a eu. Moi, je serais incapable d'être migrant. Le seul déplacement que j'ai effectué, c'était il y a 4 ans, passer de RTL à ICI parce que j'avais envie de faire une action désintéressée. Mais le truc, c'est que je suis français. Je le sais parce que j'aime la mie de pain, les lettres, surtout le B, et que je suis dépressif. Parce que si Dieu m'avait fait afghan, il est probable que je chercherais à me barrer. Hein, l'Afghanistan, c'est un pays hostile. Justin Bridoux, il fait 0% de son chiffre d'affaires. Et là-bas,
il y a les talibans, des types poilus qui ressemblent à des hipsters mais sans job dans le graphisme. Or moi qui m'y connais pas mal en politique internationale, bon, j'ai analysé la situation, mon constat est sans appel, ils sont méchants. Avec les femmes notamment. Il y a 15 jours, ils ont interdit aux femmes de voyager seules plus de 72 kilomètres. C'est très précis, je sais pas ce qu'ils ont avec le 72, ils sont aussi persuadés que là-haut il y a 72 vierges. Donc là, si ça se trouve, ils sont en train d'attaquer le château de François Fillon dans le 72, la Sarthe. L'autre se retrouve alors jeté depuis le rempart la cire chaude qui reste de l'épilation de Pénélope. Mais en fait, c'est une sottise. Parce que par définition, les Afghans qui viennent chez nous fuient justement les extrémistes. Eux, ce sont les gentils. Vous voyez, je maîtrise la géopolitique. Seulement le souci, c'est qu'ils arrivent en groupe. Or, Emmanuel Béart l'a dit, le jour où elle a accueilli dans son F4 son 125e sans-papier qu'elle a scotché au plafond parce qu'il n'y avait plus de place. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tenez, prenez le Royaume-Uni, ce pays où Elisabeth II a embauché tous les coiffeurs pour sa maxi-vague. Si bien qu'il n'y en a plus pour Boris Johnson. Eux aussi ont des milliers d'Afghans qui arrivent. On se demande pourquoi. La bouffe est nulle, ils flottent, il ne reste que deux Beatles, qui vivent aux States en plus. Mais là encore, comparé à Kaboul, la vue de Charles et Camilla en train de se faire des bisous baveux en bottes de cheval, c'est rien. Et là, les Anglais qui sont loin d'être des cons, ce sont les seuls à avoir réussi à faire quelque chose avec des RL. Nous, on passait devant, on disait, je sais pas. Et ben, ils ont décidé de décourager les Afghans. Ouais, alors j'ai lu ça dans Libération, le journal dont on admire les couves en kiosque avant de se dire qu'on va plutôt acheter autre chose. Le ministère de l'Intérieur anglais a versé 700 000 livres sterling à une société CIFA pour qu'elle mène en Afghanistan une campagne anti-migration. Alors, ils ont collé des affiches où on voit des migrants en photo avec le slogan « We will return you », ce qui signifie en gros « On vous ramènera au point de départ ». En fait, les Anglais, ils jouent au jeu de loi avec des vrais gens. Ensuite, je suppose qu'ils en ont fait d'autres. Il doit y avoir des photos géantes d'Adèle avec marqué « Si vous venez, on va vous forcer à écouter ça » ou d'autres visuels avec le prince William et ses dents énormes de rat transgénique avec la phrase « Dès que vous poserez le pied sur la plage de Brighton, il sera là, il va vous manger ». Le but, en fait, c'est faire peur aux Afghans, alors qu'il suffirait de leur montrer les chiffres du Covid. Enfin, c'est une catastrophe. Les Anglais ont presque le même taux d'incidence que nous. Parce que sinon, une pub dissuasive comparée à l'horreur du quotidien à Kaboul, ça fait pas le poids. Les talibans ont même, quand même interdit la musique. C'est une fête de la musique là-bas, vous avez Gary et Garou et Laurie Tillman qui disaient tout de suite, c'est parti pour 3h30 de silence. On va bien se faire chier. Alors, ok, j'adorerais que notre fête de la musique à nous, ce soit ça. Mais il faudrait que ce soit un choix de société, pas une obligation. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir plus qu'une campagne de pub pour dissuader des gens qui n'ont rien d'aller chercher du mieux ailleurs, parce que pour eux, tout est mieux ailleurs, en fait.
Merci.
Et Tanguy, on se retrouve le 20 janvier au théâtre Jacques Prévert, c'est à Aulnay-sous-Bois.
Oui. Le film Sans toi, réalisé par Sophie Guillemin et interprété par Sophie Guillemin et Thierry Godard, sort le 12 janvier au cinéma. D'autres événements culturels, Leïla Kadoboudi.
Si je vous parle de mercredi. Je parle de quoi?
D'un jour de la semaine.
La fille Adams.
Robinson Crusoe.
Robinson, non.
La fille Adams.
Mercredi.
Ouais, absolument, Daniel. Ah ouais, tu peux préciser?
Mercredi Adams.
Ouais, donc il va se passer quoi?
Il y a le 2 qui sort. Il va y avoir
un film. Pas le film, le.
Un spin-off.
Une
comédie musicale.
Le deuxième film, si?
Non, le livre. Non.
Mais dessin animé.
Une série?
Une série, absolument. Une série sur Netflix.
Netflix.
Yes.
All right. Your motherfucker.
Et sur Amazon, il y a quelque chose ou quoi?
Netflix.
Une série sur Netflix réalisée par un certain Tim Burton. Rien que ça, 8 épisodes pour raconter le difficile passage à l'âge adulte de l'adolescente Dark de la famille Adam. C'est donc attendu très très bientôt. C'est un conte gothique, vous le savez. Ce que je voulais vous demander simplement.
Oui, ce que tu voulais dire.
On a la date?
J'ai pas la date. Non. C'est pour ça, c'est ce que je cherchais. J'ai pas la date. En revanche, on voit que dans les plateformes en ce moment accueillent de plus en plus de grands réalisateurs, que c'est vraiment un phénomène énorme. Comment ça a changé votre pratique, vous, du métier en tant que comédien, ce rapport aux plateformes, à ces projets éventuellement qui pourraient se monter avec des réalisateurs plutôt associés au cinéma?
Bah oui, ouais, elles sont de plus en plus présentes. Moi, j'ai bossé là pour Disney, ouais. Disney Star, et un remake de Blanche-Neige. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est Oussekine.
Non, c'est pas vrai, c'est Oussekine.
C'est
Oussekine,
ouais, c'est pas le même trip.
Ouais. C'est pas la même histoire.
Non, c'est super. Et Amazon bientôt. Ils sont là, ils sont présents. Il va falloir faire avec. De toute façon, il faut prendre un petit peu le train en marche.
Ça, c'est qu'une histoire de gros sous de producteurs où ça change vraiment la manière de travailler. Ouais. On avait beaucoup dit que les fictions. À la télé, par rapport au cinéma, il y avait des contraintes de jour, de tournage, des contraintes de densité, d'efficacité dans le rythme de tournage.
pour les plateformes, ça change quoi? Est-ce qu'ils sont plus dans une économie de cinéma ou dans une économie de télé?
Ils sont plus dans une économie tout court, je crois. Ils ont surtout pas envie de nous payer beaucoup.
Donc ils veulent rentabiliser l'opération.
Ouais, je pense qu'il va falloir à un moment donné que surtout les plateformes américaines comprennent que
D'accord.
Les acteurs valent tant. Enfin voilà.
Oui, mais vous avez toujours la liberté, le luxe, surtout avec votre statut, de refuser aussi.
Non, j'ai
si
pas,
vous estimez,
j'ai pas vraiment,
si vous estimez que ce n'est pas le bon cachet.
Vraiment, ouais, mais on sent que même que les productions un peu françaises, quand elles sont confrontées aux plateformes et leur manière les manières de négo changent radicalement. Ça devient compliqué.
Mmh. Et ça veut dire quoi? Les producteurs trop contents d'être diffusés sur une plateforme acceptent des conditions financières qui ne sont pas dignes de ce nom?
Ouais, en tout cas, ils mettent beaucoup pour la conception, pour l'humain, c'est un peu moins. J'ai remarqué, ouais. C'est méthode américaine, un petit peu. Il va falloir qu'on s'adapte ou qu'ils s'adaptent. J'en sais rien dans quel sens ça va aller, mais.
Faut se mettre d'accord.
Ouais, qu'on se mette d'accord, en tout cas, ouais.
Autre question. Le point commun entre Marcy, Marion Cotillard, Tahar Rahim, et le compositeur Alexandre Desplat.
Ils sont surcotés.
Non, c'est dégueulasse.
Oui, c'est pour ça que c'est drôle.
Ils sont membres d'un jury. Ils vont collaborer.
Non, pas au jury.
Ils sont égéris.
Égéris non plus.
Ils ont fait des gros succès sur Netflix également.
Ils ont signé une pétition.
Non.
Ils vont faire une série.
Omar Sy, Marion Cotillard, Tahar Rahim, le compositeur de musique Alexandre Desplat.
Enfin, ils sont au casting d'un même projet.
Ils sont pas au casting d'un même projet. Ça se passe aux États-Unis.
Ah, ils sont nommés au Golden Globe.
Absolument, ils sont nommés au Golden Globe qui va avoir lieu ce dimanche.
À peine lieu parce que c'est sans ni public. Diffusé
et
pas
voilà,
public, c'est ça.
C'est la particularité, une cérémonie sans public et sans diffusion télé, mais en tout cas,
c'est pour
on
ça
peut
qu'ils ont mis des Français.
Et sans Ricky Gervais, malheureusement.
Marion Cotillard est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un film comique ou musical pour Annette. Alexandre Desplat, lui, c'est pour la bande originale de The French Dispatch. La meilleure série dramatique, ça pourrait être Lupin. Omar Sy, même chose, en meilleur acteur. Et Tahar Rahim, pour Le Serpent, meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série. Alors en effet, on ne pourra pas les voir monter les marches ou prendre le prix et faire un discours. Là, vous le savez, les Golden Globes...
Ils font la cérémonie en Zoom ou quoi? Ils sont chacun chez
eux. Je ne sais même pas comment ils vont en parler, à part après quelques articles de presse. Les Golden Globes sont un peu en difficulté. Ils ont été accusés de racisme, de sexisme, d'harcèlement, de corruption.
Ouais, les Oscars aussi. Hein.
Ouais, sauf que pour le coup, ça a conduit à une cérémonie sans public et sans diffusion télé. Est-ce que ça fascine toujours autant les États-Unis quand on est réalisatrice et comédien?
Ben, là, je reviens juste sur le fait des cérémonies sur le film vient d'avoir deux prix. Sophie a eu le prix de la meilleure réalisatrice en Italie dans un festival.
Ah ouais.
Ben, on n'y a pas été, on n'a pas pu y aller. Et un prix du. Et prix du meilleur film au Brésil dans un festival, pareil.
Bah, félicitations. Pardon de ne pas l'avoir dit, je ne le savais pas, mais c'était notre taf de le dire. Non, non. Et les cérémonies, vous en avez vécu, vous avez été nommé au César aussi.
Ouais.
Quel est votre regard sur les séries, sur les cérémonies, pardon?
Moi, j'adore parce que je suis très bling-bling.
Ça a le mérite d'être clair. Et vous, Thierry Godin?
Bah moi, j'étais aux Emmy Awards. On avait eu un Emmy Award avec Engrenage. Et j'avais adoré. J'avais Michael Douglas à côté de moi qui
chic.
Qui au début me calculait pas. Et quand on a eu le prix, après, il était plus.
Il a demandé à selfie.
Après, on s'est embrassé comme ça. On s'est fait dans les bras.
À l'américaine.
À l'américaine. À l'américaine. Winner, tu t'embrasses.
Ça vous fascine toujours les États-Unis ou pas? Ça vous a déjà fasciné?
Écoute, ouais, oui, c'est facile. Moi, j'aime bien New York, j'aime bien... Oui, c'est fascinant, c'est quand même le berceau d'un cinéma qu'on aime quand même.
Alors pardon, on parle de tourisme ou on parle de boulot?
Non, mais d'entreprise, d'industrie, mais aussi du pays. Parce
ouais,
que
du
ça
pays,
va, parce
quand
t'arrives
à New York, t'as forcément des images de tous
tu
ces films que
films,
t'aimes.
Voilà.
Donc je suis assez fasciné.
Est-ce que vous êtes fan, Sophie Guillemin, d'un acteur ou d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, d'une actrice?
J'ai du mal, en tout cas pour les réalisateurs, à être fan de tout un parcours de réalisateur ou de réalisatrice. C'est-à-dire que j'ai des gros coups de cœur pour des films, mais je serais difficile d'aimer toute la filmo de quelqu'un.
Vous n'aimez pas tout Truffaut, tout Romer, tout Spielberg, Tim Burton?
Non, c'est pas le cas. Par exemple, même Jane Campion, donc La leçon de piano, pour moi,
c'est le sublime
le par plus ultra.
Quoi. Mmh. Et c'est vrai que là, je viens de voir son dernier film sur Netflix.
Et là, vous avez été déçu.
Ah ouais, super déçu. Ouais. Et j'étais dégoûtée parce que justement, j'ai qu'une envie, c'est d'aimer tout ce qu'elle va faire. Mais ouais, bon.
Thierry Godard, vous êtes fan de.
Moi, je viens d'être scotché vraiment. Et je le connaissais pas, et pourtant, par Rami Malek dans Mr. Robot, qui a déjà quelques années. Hein. Et après, du coup, j'ai eu envie de voir Mercury, sur Freddie Mercury, et je suis assez scotché par cet acteur. Moi, je suis.
Et il est dans le dernier James Bond aussi.
Et il est dans. Alors, je l'ai vu, mais dans le. Mais bon, je voilà. Mais dans Mr. Robot, j'ai série, mais de dingue. J'ai jamais vu une série aussi.
Ah oui, c'est lui qui joue le méchant,
non?
Mais je viens de réaliser.
Ouais, c'est lui. Ouais. Mais on le reconnaît moins, je crois. Hein, on a...
Sophie Guillemin, Thierry Godard, parlons des projets. Alors, je rappelle quand même que le premier projet, c'est Sans toi, qui sort le 12, et donc qui a été primé dans différents festivals en Italie et au Brésil, si ma mémoire est bonne. Ou c'est Kin, parlons-en un tout petit peu quand même de cette.
Alors, je sais pas ce que je peux dire, parce qu'avec Disney, c'est compliqué. C'est compliqué parce que.
En tout cas, c'est l'histoire de Malik Ousekine.
En tout cas, c'est l'histoire de Malik Ousekine, voilà.
Qui finit mal.
Étudiant
qui finit pas bien.
Qui a été frappé à mort par la police en 86.
Voilà, 86, ouais. Un jeune homme qui avait rien à voir avec la manifestation, qui sortait d'une boîte de jazz et qui a été pris en chasse par
les voltigeurs
de l'époque. Et qui,
les voltigeurs, c'était des motos où un policier conduisait et un autre avait des motos.
Voilà, ouais.
Non, mais il y avait celui qui avait la matraque qui était derrière. Ouais.
C'est un boulot.
C'est pas faire les deux. C'est circassien comme boulot presque. Et vous faites quoi, quel personnage?
Moi, je fais le méchant voltigeur dedans.
Ah, c'est vrai. Ouais, alors on va pas vous aimer
salaud,
du tout.
Sortez
après
de ce plateau.
Ouais, mais bon.
Et vous avez tourné dans Fille de paysan de Julie Manoukian. C'est une histoire vraie, ça aussi?
Ouais, histoire vraie sur la famille Pécourneau. Voilà, c'est toute l'absurdité dans l'agriculture, des lois de Bruxelles avec. Des gens qui sont hyper endettés, qui essaient de s'en sortir. Parce qu'ils vendent un poulet, un jour, je raconte vite fait, ils vendent un poulet un jour à une voisine, et la voisine les dénonce parce qu'elle leur a vendu le poulet. Enfin, tu vois, ça tourne en rond. Et, et du coup, il y a un inspecteur qui vient, qui leur dit, vous n'avez pas le droit de vendre de poulet. Hein. Il dit, bon, c'est pas grave, on va faire un hangar pour élever des poulets. Il dit, super, comme ça, vous n'aurez pas l'amende. Et ils font le hangar, mais entre-temps, dans la nuit, il y a une loi qui est passée à Bruxelles parce que les mangeoires avaient été espacées de 15 cm et lui avait fait les mangeoires à 10 cm. Oh, voilà. Et donc le gars, on peut plus, il prend des cachets, il fait une tentative de suicide. Il est à l'hôpital dans le coma et leur fille qui a 17 ans, décide de les aider en faisant une sorte de collecte sur Internet pour essayer de trouver de l'argent pour les aider. Et voilà. Donc c'est une jolie histoire qui finit plutôt pas mal. Mais voilà, ça dénonce un peu. Enfin, il y a eu des films, il y a eu Au nom du père là, qui est sorti sur. Voilà, je vais pas le répéter, mais il y a un paysan, je crois, qui se suicide par jour. Sinon, j'étais complètement scotché d'apprendre ça. Donc voilà, c'est sur le monde paysan, mais c'est très bien. Et Julie Manoukian, jeune réalisatrice.
Et puis vous êtes en train de tourner une série Valkyrie pour TF1 aux côtés d'Hélène de Fougerolles, de Grégory Fitoussi, de Tchéky Cario,
De Bruno Volkovitch. Voilà, sublime série. On est en plein tournage et c'est super.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour tous les auditeurs pervers, fans de Morgane Cadignan, j'imagine, qui m'ont demandé si l'expression utilisée par Leïla, mettre le gâteau dans le congélateur, avait une deuxième lecture légèrement connotée sexuellement. Alors non. On parlait juste d'une scène du film. Mais alors, connaissant Leïla, c'est pas impossible qu'il y ait un fond de dégueulasserie. Alors, et en même temps, ça reste moins chelou et salace que les lapsus de certains comédiens.
C'était dur même de jouer dans ce film.
Oh là là. Désolé pour les habitants de la ville où habitent Thierry Godard et son épouse qui ont découvert qu'il n'était pas le maire de la ville et que donc, quand au marché, ils avaient payé cash leurs impôts, les amendes et tout le reste, ils s'étaient bien fait enfler par cet escroc. Désolé enfin pour toutes les comédiennes, les comédiens, réalisatrices, réalisateurs qui doivent venir dans l'émission et qui ont entendu que Nagui avait compris le film d'aujourd'hui. Statistiquement, le prochain film qu'il devrait comprendre, ce sera pas avant juin, mais au mieux, en tout cas, lundi, c'est terminé, c'est fini, c'est foutu pour Sarah Giraudot et Gilles Lelouch. Statistiquement, c'est mort. Il aura rien pigé, c'est sûr, c'est clair, c'est certain.
Merci d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro et bravo pour les prix obtenus en Italie et au Brésil. Sans toi, au cinéma le 12 janvier, Sophie Guillemin, Thierry Godard, portez-vous bien puisqu'on peut encore le faire. On vous souhaite évidemment une très bonne année. Beaucoup
et merci
de succès.
Nous avoir invités.
Plaisir, passez une belle journée, un bon week-end. À lundi avec Sarah Giraudot et Gilles Lelouch.